France Culture.
Et les Midi de Culture reprennent la route. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez à 13h comme promis, on discutera avec le réalisateur Philippe Faucon. Mais tout de suite, place au Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Les artistes copient depuis toujours les œuvres des grands maîtres. Si on a pu un temps confondre les copistes et les copieurs, les historiens de l'art revalorisent aujourd'hui cette pratique essentielle à la formation et donc à la création. L'importance de la copie, c'est le dossier du Point Culture du jour. Donatien Gros, bonjour.
Bonjour, je suis bien ravi d'être avec vous.
Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes conseiller pour les programmes contemporains au Musée du Louvre. Vous préparez pour le Centre Pompidou-Metz une exposition sur la copie. Ici à Paris, au Musée de la Croix, on interroge aussi le statut de l'œuvre, l'original, la copie ou la reproduction. Le geste de copier des tableaux de maître fait partie de l'histoire de l'art. Est-ce que vous diriez qu'il y a effectivement un art de la copie et qu'il s'expose et s'étudie lui aussi ?
C'est une très bonne question. Alors, juste une petite chose sur l'exposition au Centre Pompidou-Metz. C'est une collaboration exceptionnelle du Musée du Louvre avec le Centre Pompidou-Metz qui, justement, vise à mettre en évidence aujourd'hui les questions et les formes de création par la copie. Donc, pour répondre à votre question, la copie a été, au travers de l'histoire de l'art des 600 dernières années, une manière d'apprendre, de découvrir par la technique des maîtres. C'est-à-dire que c'est une technique par laquelle on apprend à dominer ce que les autres ont fait avant nous. Vous connaissez la fameuse phrase de Bernard de Clairvaux qui disait que nous sommes des nains sur les épaules des géants. Et donc cet apprentissage de soi par l'autre dans une collectivité, au fond, c'est le principe même de la copie. C'est-à-dire aussi une époque où l'artiste, c'est le maître, c'est la personne qui a réussi par sa technique à dépasser ce que les autres faisaient avant lui. Et donc apprendre à être artiste, c'est apprendre ce qu'a appris un maître avant soi, et donc pouvoir poursuivre l'histoire. Et cette forme de création a eu un rôle très très important, évidemment au XVe siècle, évidemment au XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle. Et on a d'ailleurs dans les registres du Musée du Louvre les listes des artistes qui venaient copier. On a d'ailleurs en collection une œuvre de Manet qui est une copie d'un tableau de Titien. Et si vous allez dans la salle des États, vous verrez l'original de Titien et l'original de Manet.
Mais quand Manet copie Titien, c'est aussi un geste d'apprentissage ou il cherche autre chose que l'apprentissage du geste ?
Alors, l'apprentissage du geste, c'est aussi, c'est un monde en soi, c'est-à-dire c'est apprendre à créer, apprendre une technique et donc pouvoir transformer cette technique, ce que font les artistes modernes. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer ce rapport à l'histoire, ce rapport à la continuité, ce rapport au temps long. Et un artiste comme Manet, on le sait très bien, est un artiste qui était en dialogue avec l'histoire de l'art, en dialogue avec les maîtres espagnols, en dialogue avec, évidemment, la peinture italienne. Et donc, cet apprentissage-là de l'histoire, ce n'est pas une négation de la capacité de créer. Elle en est, au contraire, la préparation, et je dirais même, pour beaucoup d'artistes, la condition. L'art moderne, tel qu'il s'est développé, et tel qu'il s'est aussi transformé en idéologie à partir du début du XXe siècle, a refusé ce principe de copie, bon, ou l'a dissimulé. Vous connaissez la fameuse phrase de Picasso, je ne copie pas, je vole. Eh bien, parce que voler, c'est un geste actif, c'est un geste de singularité. Copier, c'est poursuivre une continuité. Le même Picasso qui a fait une série incommensurable de qualité, d'importance et de quantité à partir des femmes d'Alger. Donc la copie est devenue un geste honteux. Parce que c'était copier, c'était pas être un copie, c'était être un copieur, dans une sorte de mythe de l'originalité, de l'individualité, etc., etc. Aujourd'hui, que nous appartenons à une période où nous existons en réseau, nos vies sont connectées, eh bien, au fond, cet apprentissage, qui est un apprentissage de l'art de la main, d'une part, donc ce par quoi nous appartenons à l'humanité, et aussi un apprentissage du temps long, d'autre part, joue un rôle très important pour beaucoup d'artistes. Et donc, au fond, ce que Manet entreprenait, qui était à la fois un geste d'apprentissage, un geste de continuité, et la possibilité d'une révolution, c'est très bien que le Déjeuner sur l'herbe est directement inspiré d'une gravure du grand graveur italien du XVIe siècle, Marc-Antonio Raimondi, eh bien, au fond, cette continuité-là, elle est révélée et elle est très forte.
Alors, on croise toujours, aujourd'hui, quand on visite le Louvre ou dans d'autres musées, des copistes devant des œuvres. Comment se porte cette pratique aujourd'hui ?
Alors, le Louvre, comme la National Gallery de Londres et le Metropolitan Museum of Art, a un bureau des copistes, c'est-à-dire une structure qui fait partie du musée où des artistes viennent copier et continuent cet art, cette technique, suivant des règles qui sont très, très particulières. Ce sont des artistes qui viennent du monde entier. Outre cette entité qui existe et qui se perpétue, à l'initiative de Chiara Parisi, la directrice en Pompidou-Metz, renouveler et reposer les questions de ce que peut vouloir dire la copie, avec l'exposition donc Copies, qui ouvrira le 14 juin au Centre Pompidou-Metz, qui constitue une invitation à une centaine d'artistes au travers de toutes les disciplines à venir copier les œuvres du Louvre, à venir s'inspirer de cette matière du musée. Et ce qui est très intéressant dans la réflexion, dans les chemins qu'ont pris les artistes, il y a des peintres. Il y a des dessinateurs en ce moment. Il y en a un au moment où nous parlons qui est au cabinet de consultation des arts graphiques du musée du Louvre, où tous les citoyens peuvent aller, où il est en train actuellement de copier, et qui pratique le dessin, qui pratique la peinture comme un art de résistance. Mais d'autres aussi qui se posent la question, que veut dire copier maintenant que nous avons inventé le scanner 3D qui permet de recréer une réalité telle quelle? Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment pouvons-nous nous positionner dans notre art de la main, d'une manière qui ne soit pas réactionnaire, dans notre individualité, dans notre singularité, en dialogue avec les autres.
Est-ce que se pose aussi la question de l'auteur, c'est-à-dire qui est l'auteur finalement de la copie, le copiste ou le peintre de la peinture copiée?
Je dirais que l'auteur, il est dans la relation. Il est dans la relation du copiste à l'artiste, de l'œuvre créée à l'œuvre originale. Et vous posez une très bonne question, parce qu'au fond, longtemps, la copie, on se posait la question du statut de l'auteur. Vous savez que Michel-Ange lui-même a réalisé des sculptures romaines, des fausses sculptures romaines, qui ont été vendues comme des sculptures d'époque romaine. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les artistes viennent copier en conscience. C'est-à-dire que le geste n'est pas simplement un geste d'apprentissage comme dans la continuité de l'histoire, il l'est évidemment, mais c'est aussi un geste de positionnement, de volonté, d'un rapport à un patrimoine qui est vivant, qui n'est pas une chose inerte, et de reconnaître que la création, ce n'est pas forcément la négation de ce qui est venu auparavant, ce peut en être la transformation.
Bien, merci beaucoup, Donatien Gros.
Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, en Allemagne, la Bavière pointée du doigt pour ne pas avoir restitué des œuvres spoliées pendant la guerre.
Oui, la presse allemande vient de publier une liste de 200 œuvres d'art spoliées par les nazis qui se trouvent actuellement dans les collections muséales bavaroises. Dans le même temps, une autre liste relève que 800 œuvres de ces mêmes collections sont fortement soupçonnées d'avoir elles aussi été spoliées pendant la guerre. Alors ces révélations font grand bruit outre-Rhin, car elles montrent que le Länder a caché la provenance de ces œuvres qu'il présentait pourtant au public. De plus, la Bavière n'est jamais entrée en contact avec les descendants des propriétaires. Il est donc probable que les musées ont caché sciemment leur provenance. En 27 ans, ils n'ont restitué que 24 œuvres.
Littérature, à présent, les archives, une matière féconde pour les écrivains.
Oui, un article de Télérama revient en effet sur l'utilisation grandissante d'archives comme point de départ d'un roman ou comme matière première d'un livre. Une pratique qui n'est pas nouvelle, mais qui s'impose de plus en plus dans le paysage littéraire actuel. En témoignent par exemple plusieurs romans des deux dernières rentrées littéraires. Patronyme de Vanessa Springora, Mon vrai nom est Elisabeth d'Adalion, Photos sur demande de Simon Chevrier ou encore Archipel d'Hélène Gaudy. Qu'il s'agisse de photographies, de lettres, de documents administratifs ou de coupures de presse, l'archive stimule la créativité des écrivains tout en leur offrant un gage de véracité.
Une nouvelle exposition à Paris qui se veut sensationnaliste mais se révèle surtout problématique.
Oui, après les succès publics à Londres ou Milan, l'exposition itinérante Serial Killer vient d'ouvrir ses portes aux Galeries Montparnasse dans le 15e arrondissement à Paris. L'exposition propose aux spectateurs une plongée dans l'univers macabre des tueurs en série. La salle de torture du cannibale de Rothenberg est par exemple entièrement reconstituée, mais on peut aussi y voir des centaines d'objets ayant appartenu à des meurtriers comme Jeffrey Dahmer et s'immerger dans les affaires criminelles les plus sordides de l'histoire. Une exposition au fétichisme morbide, selon Télérama, qui ne propose aucune distance critique et fait peu cas des victimes, mais qui continue à attirer les foules.
Et pour finir, Marie, débute demain à Marseille le festival Mars en baroque.
Pour sa 23e édition, l'événement dédié à la musique baroque célébrera cette année l'opéra jusqu'au 30 mars prochain. Au programme dès demain, un concert de la soprano Roberta Mameli autour de la figure d'Hamlet, mais aussi le célèbre Orfeo de Monteverdi qui sera joué pour la première fois dans la Cité phocéenne dimanche. Mars en baroque propose aussi des conférences et des rencontres. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le programme complet sur la page du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.